diffusion. Religion du monde, Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons parler du bonheur et du sourire. En ces temps de Covid, cela pourrait paraître un brin provocateur, mais nous y verrons une bouffée d'oxygène et de réconfort. Histoire mondiale du bonheur, aux éditions du Cherche Midi, raconte une autre histoire de l'humanité à travers cette quête universelle que sous-tend le bonheur et ce qu'en disent aussi les religions. Et à l'heure où le sourire est occulté par le port du masque, des sourires et des hommes, chez Bayard, livre une réflexion philosophique et spirituelle sur le sourire qui relie à la fois les hommes et exprime en même temps son intériorité. 60 contributeurs des sciences humaines sous la direction de l'historien François Durper pour cette grande fresque qui s'interroge sur le bonheur de l'homme dès la préhistoire jusqu'à nos jours, en passant par l'Égypte et la Chine ancienne, les philosophes grecs, mais aussi Montaigne, Spinoza, la recherche des bonheurs politiques avec les révolutions, les bonheurs marchands et le rêve américain et la société des loisirs jusqu'au bonheur technologique. François Durper, bonjour, vous êtes historien. Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre collectif « Histoire mondiale du bonheur » Ça donne le vertige, François Durper.
Alors, c'est parti de deux choses. La première, c'est en tant qu'historien, se dire « Tiens, ce sur quoi les historiens n'ont pas vraiment travaillé, ce sont les émotions ». C'est vrai que c'est plus simple de faire le récit des batailles, ou même le récit des modes de vie, où est-ce que l'homme de Cro-Magnon vivait, ce qu'il mangeait, mais ce qu'il avait dans le cœur, était-il triste, était-il heureux, est-ce qu'il avait des espoirs? Eh bien ça, c'est très compliqué évidemment, mais c'est aussi, pour l'historien, extrêmement passionnant. On a vraiment, c'est un peu comme une enquête policière, mais il faut aller chercher très très longtemps avant. Puis la deuxième chose, c'est l'intérêt pour ces questions de bien-être et se demander si cette notion de bonheur était une notion contemporaine et si c'était une notion occidentale. Et en fait, très rapidement, on s'est aperçu qu'au-delà des différences de traduction, rechercher une vie bonne, la vie la meilleure possible, eh bien, on la trouve dans toutes les civilisations et à toutes les époques.
Est-ce que ça n'est pas difficile, malgré tout, de regarder la question du bonheur avec des lunettes du XXIe siècle, François Durper?
Voilà, là c'est tout l'exercice de ne pas regarder le passé avec les yeux du présent et de ne pas non plus regarder l'ailleurs avec les yeux de notre société. Ce que veut dire être heureux dans d'autres civilisations, eh bien, n'est pas nécessairement la même chose. Par exemple, le rapport au bien matériel n'est pas le même. On peut tout à fait concevoir être heureux sans avoir la même quantité de confort matériel que l'on a au début du XXIe siècle. D'ailleurs, c'est l'une des questions. Beaucoup d'économistes, notamment, qui ont travaillé sur la question du bonheur, se disent qu'à un certain niveau de bien-être matériel, on n'avance plus dans le bonheur. Ça, c'est effectivement très intéressant. Et effectivement, se dire en Égypte ancienne ou se dire au Moyen-Âge ou se dire chez les Touaregs, ce que signifie le mot bonheur, ça nous enseigne des choses de notre présent et c'est ça qui est plus intéressant. Être dans ce chemin-là, aller chercher dans le passé et dans l'ailleurs des clés de compréhension du présent, plutôt que l'inverse, plutôt que de plaquer notre grille de lecture d'aujourd'hui sur d'autres temps et d'autres contrées.
Alors, vous vous êtes adressé à une soixantaine de spécialistes, absolument de toutes les disciplines.
Oui, l'idée, c'était... moi, je suis historien, mais je ne suis pas historien de l'Égypte ancienne, je ne suis pas historien, je ne suis pas un spécialiste de Confucius, ni du bouddhisme, ni de l'Afrique de l'Ouest à l'époque du XVIIe siècle. Donc, tout simplement, j'ai été chercher des historiens, des anthropologues, des psychologues, des économistes, des paléontologues. Cro-Magnon était-il heureux? Leur confier chacun un chapitre de l'ouvrage. Je préfère dire le mot chapitre parce que l'idée n'était pas du tout de faire un livre universitaire avec des articles. L'idée était vraiment de dire, chaque historien a une partie de l'ouvrage. Et donc, c'est évidemment chronologique. On part de Cro-Magnon et on va d'ailleurs jusqu'en 2100. L'idée, c'est de se demander comment sera-t-on heureux dans plusieurs années ?
Alors effectivement, c'est un éventail extrêmement large, puisque comme vous le disiez, on part de Cro-Magnon jusqu'aux sciences du bonheur, hein, au XXIe siècle. Alors, l'homme de Cro-Magnon était-il heureux ? Ça, c'est une question quand même tout à fait intéressante. Et vous répondez, bah, finalement, oui, parce qu'il a peint, il a beaucoup peint, et cette peinture exprime son bien-être. Alors que nous, on imaginerait que bien, la vie... À cette époque, il y a 40 000 ans, c'est cela, eh bien, c'était quand même pas très facile. Il fallait toujours chasser pour manger et aller à la cueillette.
Ah, exactement. Il faut rendre à Jean-Paul Demoule, paléontologue, l'un des plus grands paléontologues au monde, faut lui rendre, en fait, l'hommage de ce chapitre. Et il s'est posé cette question-là et il s'est dit, effectivement, il nous faut des indices. Alors, parmi les indices, vous l'avez dit. Il y a les peintures rupestres. Il y a également... D'ailleurs, il dit quelque chose. On a appris à l'école que ces dames aux formes opulentes, c'était pour rendre hommage à la maternité. Jean-Paul Demoule dit pas du tout. C'est peut-être un hommage à la sensualité. Il n'y a rien qui dit l'inverse, en tout cas. On a retrouvé des instruments de musique. Donc, on sait que cet homme de Cro-Magnon, eh bien, il allait dans des formes artistiques. C'est déjà se rapprocher du bonheur. On a aussi l'indication qu'il travaillait très peu. Vous avez dit cueillette. Vous partez à la chasse et à la cueillette, à la pêche, c'est 4 heures par jour pour assurer sa subsistance. Vous aurez compris que 4 heures par jour de travail plutôt que 6 ou 7 heures, ben c'est un peu plus sans doute de temps pour le loisir. Et donc l'indice que c'était sans doute un peu plus de bonheur. Dernier indice, dernier exemple, les cimetières. Les cimetières, eh bien, il n'y avait pas de nivellement social, ce qu'on retrouvera par la suite. Pareil pour les guerres, d'ailleurs, pas de traces de guerre dans la première période de la préhistoire. Les guerres ne viendront qu'ensuite, il n'y a pas de querelle de territoire. Et donc, plein d'indices pour se dire, eh bien, effectivement, ce qu'on a appelé après l'âge d'or, il devait sans doute y avoir une période où notre ancêtre était peut-être plus heureux que nous.
Pas de guerre religieuse non plus.
Pas de guerre religieuse. Mais déjà, le début de la spiritualité, parce que ce que l'on sait, c'est que lorsqu'on enterre quelqu'un qui est notre semblable, c'est qu'on a déjà le début de la conscience d'une spiritualité. Et la conscience du fait que ce corps qui pourrit à côté, eh bien, peut-être qu'il a une âme, peut-être qu'il va quelque part, et que donc il faut prêter attention à ce corps. Et donc, il y a à la fois la découverte du malheur et du bonheur, c'est-à-dire du tragique de l'existence, et la découverte de la spiritualité.
Mais ce tragique de l'existence, semble-t-il, évidemment, ne prête pas à réflexion, hein, comme vont le faire les philosophes grecs, quelques siècles avant notre ère, et puis, comme là encore, à la même époque, va le faire Bouddha, qui va mener une très grande réflexion, effectivement, est-ce que le bonheur, ça n'est pas être libéré de la souffrance, et de tout ce qui amène la souffrance.
Tout à fait. Ce qu'on remarque, c'est que chez Bouddha, finalement, le bonheur, il est dans le détachement. Le malheur, c'est l'attachement, pour faire simple. Ce qui est intéressant aussi dans le bouddhisme, et c'est pour ça qu'il a bonne presse aujourd'hui, que beaucoup s'y intéressent, c'est que c'est une pratique du bonheur. C'est pas seulement philosophique. C'est une manière de se dire, eh bien, on peut travailler à son bonheur. L'esprit, c'est une terre glaise. On peut modeler son esprit. Et par quoi ? Par la méditation. La méditation est le travail pratique de ce bonheur qui n'est pas seulement théorique. Et puis, eh bien, l'idée, c'est aussi de se détacher de tout ce qui nous fait souffrir, et notamment l'impermanence des choses. L'impermanence doit, dans le bouddhisme, être notre allié, notre sœur. On doit l'apprivoiser plutôt que de considérer qu'elle est génératrice de notre souffrance.
L'impermanence, donc, c'est-à-dire que rien n'est fixe, hein.
Rien n'est fixe, c'est la mort des choses, la mort des gens, la disparition de ce qui nous entoure. Eh bien, tout cela, chez Bouddha, et ça ne doit pas être cause de souffrance. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et il y a aussi la recherche d'un état qui est un état de permanence de l'esprit face à l'impermanence des choses extérieures. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les philosophies et toutes les spiritualités. C'est un point commun entre les philosophies antiques et plus tard les religions chrétiennes, juives ou musulmanes. La notion d'ataraxie, le fait qu'on ne doit pas faire supporter notre état d'âme, qu'il ne doit pas dépendre de conditions extérieures. Tous recherchent ça. Dans l'islam, par exemple, c'est ce fameux djihad, cet effort sur soi-même pour, en quelque sorte, que notre climat intérieur ne dépende pas de la météo extérieure. Si ça dépend de la météo extérieure, on ne va pas être heureux très souvent, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas à l'extérieur. Eh bien, si on fait dépendre notre bonheur de conditions uniquement intérieures, ça va très très loin, hein. Il y a des réflexions sur peut-on être heureux dans des conditions absolument effroyables de vie. C'est vraiment peut-être les limites de cette réflexion-là. Mais en tout cas, c'est vers cela que va Bouddha, et c'est vers cela aussi que vont les philosophies antiques. On peut parler notamment de l'épicurisme, mais avec deux sens, sans être trop abstrait, la définition hédonique, c'est-à-dire que c'est la recherche du plaisir, et la définition eudémonique du bonheur, c'est-à-dire la recherche du sens. Recherche de plaisir ou recherche du sens?
En fait, en permanence, finalement, ce que l'on voit dans ce livre, hein, François Durper, Histoire mondiale du bonheur, aux éditions du Cherche Midi, c'est que c'est toujours cette question d'équilibre entre finalement un certain bonheur matériel, bon, qu'il faut mesurer, et puis aussi le bonheur que peut procurer le travail aussi intellectuel, le travail de la réflexion. Et c'est toujours ce point d'équilibre qui est à trouver, François Durper.
Oui. Oui, tout à fait. Par exemple, dans la religion juive, la question, le bonheur, asherai, heureux, en hébreu, est très proche de la notion de bonheur de l'esprit, du travail de l'esprit. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, et aussi le fait de partager le bonheur, hein, de préparer ensemble, par exemple, un bon repas ou un baptême. Et d'ailleurs, le chapitre consacré justement au bonheur dans la religion juive conclut sur le fait que le jeu de mots, le fameux humour juif, ben là est le bonheur, parce qu'il y a dans le jeu de mots à la fois le travail de l'esprit, mais aussi le fait de partager avec, hein, et ça c'est fondamental. Mais effectivement, la question du rapport entre les biens matériels et le bonheur, on le retrouve aujourd'hui dans cette réflexion. Est-ce qu'on peut être heureux en n'ayant rien? Probablement pas. Mais en revanche, disons que l'argent fait le bonheur dans une certaine mesure, c'est-à-dire que sortir de la pauvreté, avoir la santé, manger à sa faim, là effectivement, c'est un minimum requis. Et ça, toutes les religions, toutes les spiritualités et la psychologie actuelle le dit. En revanche, au-delà d'un certain seuil, la deuxième voiture, la troisième voiture ne procure pas plus de bonheur. Il y a ce qu'on appelle chez les psychologues l'habituation hédonique, c'est-à-dire qu'on s'habitue. D'ailleurs, c'est plutôt très optimiste, parce qu'il y a le phénomène inverse, c'est-à-dire que quand il vous arrive quelque chose de terrible, vous êtes malheureux un temps et le temps fait son œuvre et vous revenez à une sorte d'égalité. Donc il y a une sorte de moyenne, en quelque sorte, de bien-être. Ce qui fait que c'est vraiment à l'intérieur de soi qu'est le bien-être, hein. Une très très bonne nouvelle, eh bien finalement ça va disparaître au fil du temps. Une très très mauvaise aussi. Cette habituation hédonique montre que c'est l'expérience de vie. Exemple très concret, par exemple, si vous arrive de gagner au loto, ben, transformez ça en expérience de vie plutôt qu'en bien matériel accumulé, hein. Peut-être traverser l'Atlantique sur un bateau, si c'est ça qui vous fait plaisir, ou monter une montagne, plutôt que d'acquérir une villa. En tout cas, c'est un bonheur plus durable, parce qu'il va procurer du plaisir. et du plaisir d'être ensemble et aussi des souvenirs de ce plaisir d'être ensemble.
Dans le même temps, quand on regarde le chapitre sur la Chine ancienne, eh bien, on voit quand même que le bonheur est particulièrement lié, eh bien, aux conditions matérielles que l'on peut obtenir en pratiquant tel ou tel rite. Mmh. Est-ce que cela peut expliquer aujourd'hui cette quête en Chine du bonheur matériel que l'on peut constater ?
Alors, ce qui est très intéressant aussi en Chine ancienne, c'est notamment l'héritage de Confucius, c'est la question de comment on bâtit sur l'harmonie sociale. C'est-à-dire que c'est un peu à l'opposé de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Hein, on va dans une librairie, on dit « il est où les rayonnages sur le bonheur ?» et on va acheter un livre qui va nous procurer peut-être plus de bonheur. On n'est pas heureux indépendamment des autres. Ça, c'est aussi un héritage de la Chine ancienne. Confucius le dit, on fait reposer sa spiritualité sur comment bâtir un bonheur ensemble, et notamment déjà dans la cellule familiale, comment on construit une harmonie de la famille. La famille qui est une petite société et la société qui est une petite famille. Ça, c'est très important parce que ça nous fait sortir de notre notion de développement personnel très répandue aujourd'hui en Occident. On le retrouve aussi chez les Grecs à l'époque antique. Finalement, être heureux à Athènes notamment, c'est participer aux affaires de la cité. Donc c'est le contraire du développement personnel. C'est comment on participe du développement collectif de la cité dans laquelle on vit.
Participer à la démocratie. Enfin, en tous les cas, participer à la réflexion sur l'avènement de la démocratie.
Exactement. Je suis un citoyen, donc je suis heureux. C'est le cogito, en quelque sorte, des Athéniens. Participer, donner mon avis, prendre part à toutes les décisions, et pas seulement voter, hein, c'est être heureux. Ça, c'est quand même intéressant parce que se dire qu'on est, une partie d'un tout, il y a finalement les deux choses. On est heureux parce qu'on crée les conditions de son propre bonheur, mais on est heureux aussi parce qu'on va vers les autres. Et notre bonheur dépend aussi du bonheur des autres.
Comment la philosophie grecque, précisément, va-t-elle entrer en contact avec les religions monothéistes ? Et là, je pense principalement au christianisme, François Durper.
Alors, c'est vrai que lorsqu'on voit, par exemple, il y a deux textes fondamentaux dans le Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, qui nous parle des béatitudes. Ce qui est intéressant dans les béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur simple, car ils verront Dieu. C'est intéressant, ils verront Dieu. Donc, ça veut dire déjà que le bonheur, il est projeté, il est pour plus tard, il est dans le futur. Et puis, il dépend de notre attitude spirituelle. Hein, c'est presque des modèles de vie chrétienne, disait saint Augustin. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, être humble, être dans la mesure, être bon, et évidemment, être heureux, mais pour plus tard. Il y a quand même l'héritage d'Aristote, et notamment par saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas va dire il y a quand même des bonheurs ici-bas. Et notamment dans les bonheurs ici-bas, il va construire quelque chose autour de la notion d'amitié qu'il va chercher chez Aristote et qu'il va rattacher à l'amour chrétien. Eh bien oui, c'est un bonheur ici-bas, l'amour que l'on a pour les autres. Alors, qu'il étend évidemment à l'étranger, à l'inconnu, c'est en cela qu'il l'élargit à Aristote au christianisme, en se disant, là on a le véritable bonheur, la réciprocité de l'amitié, y compris eh bien, pour des êtres qui sont extrêmement loin de nous, l'inconnu à qui l'on ouvre sa porte.
Dans le même temps, ce bonheur projeté dans l'au-delà, dans l'après-mort, eh bien, ça va aussi quand même limiter les capacités du bonheur, parce qu'on se projette dans le après, et ça peut empêcher aussi de construire, de se sentir légitime à rechercher le bonheur.
Oui, c'est-à-dire que sans doute que cette notion de bonheur a été construite dans des temps où on estimait que les conditions matérielles rendaient compliqué l'accès à un certain nombre de conditions du bonheur, le fait évidemment de pouvoir manger à sa faim, d'être exempt de toute maladie. Et donc évidemment, on peut imaginer que cette philosophie, cette construction est faite pour ce temps-là.
Elle est consolatrice.
Tout à fait. Elle est à la fois consolatrice et c'est aussi une manière de construire un ordre social en se disant, eh bien, le bonheur, c'est aussi la récompense d'un comportement. C'est la récompense de la vertu chrétienne. Donc, c'est à la fois un modèle de société que l'on cherche à construire et puis, évidemment, c'est aussi consolateur. La Renaissance va rompre avec cette spiritualité en faisant redescendre le bonheur sur le plancher des hommes. Et en quelque sorte, lorsque vous levez les yeux vers la chapelle Sixtine et que vous voyez ce fameux doigt de Dieu et du premier homme, eh bien, c'est une manière pour Adam de prendre son émancipation par l'accès à son propre bonheur. Et c'est ça que nous dit la Renaissance. Et avec l'éclosion des fêtes, du plaisir et aussi de la reconnaissance que le plaisir est légitime. Finalement, en refaisant l'histoire du bonheur, on s'est rendu compte qu'on était en train de faire l'histoire de l'humanité, tout simplement. Et que la Renaissance, cet accès au bonheur ici-bas, eh bien, c'était une rupture fondamentale avec la période médiévale, même s'il y a des plaisirs ici-bas au Moyen-Âge. Les spécialistes des fêtes diront, eh bien, dans ces temps, évidemment, une recherche de plaisir et de bonheur ici-bas. Renaissance, et puis ensuite, avec l'arrivée vers la philosophie des Lumières, le fait que ce bonheur doit être partagé par tous, que ce bonheur n'est pas réservé à une élite, à une aristocratie, et qu'il doit aussi être affaire de l'État, ce que les anglo-saxons appellent le welfare, le fait que l'État prenne une part dans le bonheur des citoyens, lui assurer la santé, lui assurer un minimum de subsistance. Et ça, c'est le grand apport des révolutions atlantiques, de la révolution américaine en premier, parce que dans la déclaration d'indépendance de 1776, parmi les trois droits inaliénables, il y a la liberté, la vie et la recherche du bonheur. Et puis, évidemment, dans la révolution française, avec les propos de Saint-Just sur le bonheur.
Écrivait François Durper que l'Église a dû s'adapter, là c'est concernant les bonheurs des sens et les bonheurs de la chair, bien que l'Église a dû complètement revoir en quelque sorte son discours sur la sexualité.
Oui, alors il y a un texte qui est fondamental, qui est la condamnation de 1277, et c'est Ruedi Imbars qui fait le chapitre sur le Moyen-Âge. Je n'irai pas sur le terrain des collègues médiévistes, le chapitre est très brillant et très accessible pour tous, et comme contemporainiste, je ne vais pas aller sur ces terrains-là. J'étais moi-même d'ailleurs lecteur de cet ouvrage en premier, il a fallu effectivement relire, mais j'étais le premier à pouvoir savourer ce que les collègues des différentes périodes et puis les spécialistes des différentes civilisations, notamment par exemple, je me souviens de la lecture de chapitres sur les Amérindiens, j'ai d'abord beaucoup appris en lisant l'ouvrage.
Oui, effectivement, avec cette histoire de découverte de paradis, hein, du côté vu par les Occidentaux, là on fait juste une petite parenthèse, effectivement, l'Occident qui découvre la forêt vierge, ces hommes qui le bon sauvage, et ils ont l'impression que c'est le paradis perdu qu'ils retrouvent.
Oui, en quelque sorte, ils vont, avec beaucoup de caricatures, s'imaginer que, eh bien, on est plus heureux de ce côté-là de l'Atlantique. Il y a une sorte de découverte de l'âge d'or. Comment se fait-il que ces gens que l'on découvre, entre guillemets, eh bien, soient peut-être plus heureux que nous? C'est toute une réflexion qui va s'installer, qu'on retrouvera ensuite chez Rousseau, et qui est fondamentale. Alors c'est un chapitre d'ailleurs qui est illustré, évidemment. On a essayé quand même de mettre des illustrations dans certains des chapitres, parce qu'évidemment on ne peut pas faire cette histoire du bonheur en mettant de côté l'histoire de l'art qui est très joint.
Le mythe du paradis perdu, du paradis aussi qu'on l'on va reconstruire, hein, sur Terre, eh bien On le trouve bien sûr en marche dans les révolutions, la Révolution française et puis après les révolutions plus tard au XXe siècle. On le retrouve aussi dans des utopies. Des utopies, par exemple, c'est le phalanstère de Fourier avec la société idéale, pas d'hierarchie, tout le monde semble heureux.
Exactement. Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'à partir de ces révolutions, il y a peut-être deux manières de se dire on est heureux et l'État prend en charge une partie de notre bonheur. Il y a du côté des utopies socialistes l'idée que ce bonheur, eh bien, il est dans l'égalité et qu'il faut trouver une manière de faire des citoyens égaux et heureux. Et puis du côté des sociétés plus libérales, il y a l'idée que ce bonheur, il est indissociable du concept de liberté. Et que c'est au citoyen de définir son bonheur. Pour les uns, la liberté poussée à l'extrême, c'est l'égoïsme qui prive l'autre de son bonheur. Et pour les autres, la liberté, l'égalité poussée à l'extrême, c'est faire le bonheur de l'autre, parfois à son détriment. C'est pas à l'État de définir le bonheur, mais à chaque citoyen. Donc c'est presque sous nos yeux la guerre froide qui se dessine. Même la guerre froide serait aussi une question de bonheur. Comment vous considérez le bonheur? Et le monde s'est divisé pendant 50 ans sur cette question-là.
Alors, les religions dans tout ça, dans la recherche de ce bonheur moderne, c'est la deuxième partie du livre, elles s'effacent, elles se mettent en retrait?
Il y a une sécularisation des sociétés. Et ce qui est intéressant, c'est que cette sécularisation de cette société, va de pair avec, d'une part, le fait que le bonheur devient une marchandise. On le voit de la société américaine, où le bonheur se vend, s'achète. On crée même un lieu dévolu au bonheur, Disneyland. Vous savez que quand vous rentrez à Disneyland, en Floride notamment, vous avez écrit « l'endroit le plus heureux du monde ». Donc, vous achetez votre ticket pour rentrer dans l'endroit le plus heureux du monde. Donc, le bonheur s'achèterait au conditionnel. En même temps, il y a la révolte de citoyens face à cela, qui disent « le bonheur ne s'achète pas ». Et donc, ils vont chercher du côté de spiritualité, notamment dans les années 60, de spiritualité orientale. C'est la redécouverte du bouddhisme de la part de cette jeunesse américaine et cette jeunesse européenne des années 60, qu'on connaît en France en 1968, mais qu'on connaît sur les campus américains dès le début des années 60. Donc, il y a à la fois ce bonheur qui devient une marchandise, mais également une recherche spirituelle du côté, non pas des religions qui sont en perte, il y a une perte de repères religieux dans les grandes sociétés occidentales du XXe siècle, mais une recherche de spiritualité, notamment vers les spiritualités orientales.
On s'achemine, François Durper, vers la fin de notre échange. Ce livre a été conçu avant la pandémie, le coronavirus. Alors aujourd'hui, on voit effectivement ces réactions par rapport à ce bonheur perdu, des petits bonheurs simples. Qu'est-ce que cela vous dit ?
La première chose, c'est qu'on ne peut pas vivre sans les autres. Et être heureux sans les autres, c'est quelque chose d'impossible, de très compliqué. D'ailleurs, on se souvient du temps où nous sortions sur le balcon pour applaudir, mais c'était aussi pour vérifier que d'autres personnes existaient sur les autres balcons. C'est une manière aussi d'être heureux collectivement, une fois par jour, de se dire « voilà, on est encore ensemble ». La deuxième chose peut-être à se dire, c'est que ceux qui sont au contact de cette souffrance sont aussi peut-être les plus heureux dans la période, même s'il ne faut pas mettre de côté la souffrance au travail des personnels soignants, des professeurs, enfin de tous ceux qui effectivement, et notamment dans la période de confinement, continuaient à aller au travail. Mais il y avait quand même l'idée que l'engagement est un bonheur, c'est-à-dire que ce que toute la psychologie humaniste du XXe siècle nous dit, Abraham Maslow notamment, la notion d'engagement, l'épanouissement de soi passe par ce qu'il appelle l'altruisme positif. Oui, je risque ma vie, oui, c'est très compliqué, et oui, j'aimerais gagner plus, mais ce métier-là, c'est quelque chose qui est mon bonheur. Il y a quelque chose qui résulte un sentiment humain que participer au bonheur de mes contemporains, eh bien, c'est quelque chose qui va accroître mon bonheur personnel. Et puis, il y a aussi une responsabilité dans la fermeture des bonheurs collectifs. Fermer les restaurants, fermer les cinémas, les théâtres, on le voit bien, ça a des conséquences sur la santé psychique de la population. Et on le voit, on ne peut pas penser uniquement à la santé du corps, la santé de l'âme est aussi fondamentale. On n'est pas dans son corps comme un pilote dans son navire, disait Descartes. La pandémie, c'est une accélération d'évolution vers une société de la distance. Et une société de la distance, y compris sur la question du bonheur. On le voit bien, aujourd'hui, eh bien, il y a d'autres moyen d'être heureux, de loisirs. On ne va pas au cinéma, mais on regarde nos séries sur Netflix. Ça, c'est une évolution. Et on ne va pas au concert, mais il y a des concerts en streaming. Est-ce qu'on va revenir comme au temps d'avant, en considérant que le bonheur est aussi dans la relation? Et je pense qu'effectivement, il y a une interrogation qui est celle du 21e siècle, et cette pandémie nous le dit. Le bonheur n'est-il pas dans la relation à l'autre? Maintenant, on appelle ça relation en présentiel et pas seulement dans la distance. C'est peut-être la grande question du 21e siècle, la question de la relation.
François Durper, je vous remercie et je rappelle donc le titre de ce livre collectif, Histoire mondiale du bonheur, publié aux éditions du Cherche Midi. Merci. Des sourires et des hommes, un titre en forme de clin d'œil au célèbre roman de John Steinbeck pour une réflexion philosophique et spirituelle sur le sourire proposée par la philosophe Marie-Françoise Salès dans son essai publié aux éditions Bayard. Qu'exprime le sourire dans la vie en société? Quels sont ses messages? Que révèle également son absence? Que dit le sourire de notre vie intérieure? Dans notre échange avec Marie-Françoise Salès, c'est à cet aspect du livre que nous nous intéresserons. Bonjour Marie-Françoise Salès.
Bonjour Geneviève Delruy.
Il s'agit de votre premier livre, un livre qui s'inspire de votre thèse sur le sourire. Alors c'est un sujet tout à fait original. Mais en lisant votre essai, on se dit, mais pourquoi la philosophie n'a pas davantage pris au sérieux la question du rire et du sourire?
Alors, je crois que la question du rire a été prise au sérieux à de multiples reprises, mais c'est vrai que le sourire, lui, il est resté un petit peu à l'écart, peut-être précisément à cause de l'importance qu'on a accordée au rire, à juste titre d'ailleurs, hein, le rire est très important, mais le sourire est resté toujours quelque chose comme en dessous du rire, comme son nom l'indique d'ailleurs en français, hein, ce qui est en dessous du rire, comme si le sourire avait une moindre importance, une moindre qualité, une moindre valeur, et qu'il était bizarre de s'interroger sur une chose aussi peut-être banale et discrète que le sourire.
Alors, vous ouvrez ce livre par une histoire personnelle, familiale, tout à fait amusante. C'est l'histoire de votre père qui est un lycéen à Marseille et un surveillant ou un professeur lui dit que son sourire, le sourire de votre père, ne lui plaît pas.
Effectivement, papa a raconté cette anecdote et l'idée qu'un sourire ne puisse ne pas plaire était vraiment étonnante en fait. En soi, c'est étonnant parce que le sourire, même s'il peut prendre différentes nuances et des nuances qui ne sont pas toujours agréables, hein, comme un sourire narquois, un sourire
sardonique, hein.
Menaçant parfois, voilà exactement. Mais même dans ce cas-là, le sourire ne reste que quelque chose qui est interprété comme étant une menace en fait. Le sourire en tant que tel n'est pas dérangeant. Enfin, c'était très étonnant et très déstabilisant de comprendre que le sourire peut avoir un tel effet en fait. Grâce à cette anecdote, j'ai compris que le sourire était quelque chose qui était d'une grande efficace. Voilà, que le sourire pouvait disait beaucoup plus certainement de nous que ce qu'il paraissait dire au départ. Donc effectivement, cette anecdote est à l'origine de mon intérêt pour le sourire. Doublé également du fait que lorsque j'ai fait de la philosophie et que j'ai essayé de comprendre le sourire, je me suis rendu compte qu'il y avait très très peu de textes en philosophie qui sont consacrés au sourire. Et ça m'a donné l'occasion d'essayer de voir par moi-même ce que le sourire pouvait signifier. Et cela m'a donné l'occasion également de tester une hypothèse qui est que le sourire serait d'essence spirituelle. C'est-à-dire que le sourire révélerait tout de notre humanité, notre présence au monde, notre façon d'être au monde, nos émotions, nos relations sociales, mais aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit.
Alors, vous allez effectivement aller chercher le sourire à travers la littérature, à travers l'art, notamment la peinture, notamment la sculpture. Oui. Et puis après, vous allez effectivement aller le chercher, et cela, on va en parler dans quelques instants, dans les textes, hein, dans les grands textes des religions, et vous allez nous dire effectivement s'il y a sourire ou pas. Oui. Déjà quelques mots hein, sur, par exemple, sur la sculpture. On voit des sculptures qui effectivement sourit, mais toutes ne sourient pas. Là, je pense bien sûr à cette sculpture très connue, hein, le sourire de l'ange à la cathédrale de Reims. Oui. Mais à côté de cela, l'art n'est pas forcément souriant, hein, notamment dans les religions, l'art n'est pas forcément souriant.
Il l'est même rarement, je dirais.
Rarement, oui.
Étonnamment, parce que quand on comprend l'efficace du sourire, on se demande pourquoi le sourire n'a pas eu une plus grande importance au sein des spirites. En tout cas, au sein de l'iconographie religieuse, d'une manière générale, et au sein aussi des textes religieux également, peut-être.
Peut-être parce qu'ils sont graves aussi, souvent.
Peut-être parce qu'ils sont graves, oui. Mais plus, alors, je pense véritablement que le sourire représente une menace pour tout ce qui est d'ordre dogmatique. Et c'est la raison pour laquelle il peut représenter une menace pour tous ceux et celles qui interprètent la religion comme étant quelque chose de dogmatique, justement, d'établi. Tous ceux et celles qui ferment la porte, finalement, à la liberté.
En fait, tout ce qui est profondément normatif, effectivement, oui.
Avec... Et c'est vrai dans toutes les grandes traditions religieuses. Et c'est ça qui est intéressant, en fait.
Alors, avec aussi la question du sourire, sourire séduction, donc sourire tentation.
Oui.
Voilà, ça joue
tout
beaucoup.
À fait.
Hein.
Tout à fait. Je crois que les traditions spirituelles religieuses, en fait, ont pris en considération l'ambiguïté des sourires. Alors, le premier point, c'est que le sourire a souvent été rapproché du rire. Or, le rire est très ambigu. Par exemple, on voit dans la Bible que le rire peut être quelque chose de positif. C'est le rire de Sarah et d'Abraham, qui a donné le nom de leur fils Isaac. Mais c'est aussi un rire moqueur qui est condamné, par exemple, dans Ézéchiel ou dans l'Ecclésiaste. Donc, en fait, le rapprochement du rire et du sourire a écarté un petit peu le rire. En tout cas, l'ambiguïté du rire a rejailli sur le sourire, je crois. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, traditionnellement, le sourire est associé à la séduction. Et de ce point de vue, on a l'impression que le sourire invite les hommes à se tourner vers des préoccupations matérielles. Hein, finalement, sourire, ce serait vivre une vie qui adhère finalement à l'évidence du plaisir sensuel. Donc ça, c'est très important. Et puis la séduction, elle est aussi très souvent associée au mensonge, à la tromperie, à l'illusion. Ce dont quoi les traditions spirituelles religieuses se méfient, évidemment. Enfin, je voulais dire que le sourire aussi, il n'est pas très sérieux. C'est pas quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose qui a l'air léger, c'est quelque chose qui ne dure pas, qui est de l'ordre de l'instantané. Et donc, je pense que les grandes traditions religieuses se sont posées la question de savoir si vraiment les gens profonds, hein, ce qu'on prête ordinairement à la spiritualité religieuse, hein, la profondeur, le sérieux, eh bien, pouvaient être compatibles avec une manifestation physique telle que le sourire.
partir de quelle époque, Marie-Françoise Salez, les peintres du christianisme vont exprimer le sourire? Il y a cette célèbre Vierge avec ce nom absolument charmant, c'est la Vierge à l'enfant ou la Vierge à la chatouille, hein, selon, de Masaccio,
oui.
En 1426. Alors, ce tableau est absolument charmant, hein, la Vierge donc gratouille le menton de son fils. Est-ce que l'on peut dire que c'est vraiment la première manifestation dans la peinture chrétienne du sourire ou c'est bien avant?
Alors, c'est une des toutes premières manifestations. Il y a quelques tableaux qu'on peut peut-être trouver au niveau de la Renaissance. J'en ai repéré certains, mais c'est vraiment une des toutes premières manifestations, effectivement, du sourire en peinture dans l'art chrétien. Puisque dans la sculpture, le sourire est apparu beaucoup plus tôt, en fait. Certainement aux environs du XIe siècle. Voilà, entre le XIe et le XIIe siècle. Donc, ce sourire, il apparaît dans l'art chrétien en Occident, parce que l'Occident va privilégier en fait une forme d'art qui enseigne. Et donc, souvent dans ces tableaux qui apparaissent donc à partir de la Renaissance, comme ça, on a un enseignement qui est assez fort, qui est porté par le sourire lui-même. Alors cet enseignement, il apparaît tout particulièrement dans le christianisme, puisque ici ce n'est pas un hasard si c'est l'enfant qui sourit, puisqu'il s'agit de la représentation du Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui a pris chair et le sourire s'incarne particulièrement dans le christianisme en fait, à travers la figure du Christ.
En revanche, en islam, est-ce que le sourire, c'est compliqué parce qu'il y a la question de l'image aussi, est-ce que le sourire est représenté?
Alors, le sourire en islam n'est pas représenté.
Il est écrit.
Voilà, alors il y a une seule occurrence du sourire dans le Coran, c'est dans la sourate des fourmis en fait, où on voit, c'est Suleyman, c'est-à-dire Salomon en fait, qui sourit lorsqu'il entend les propos d'une fourmi. C'est la seule occurrence qui existe dans le Coran. Il y a aussi des hadiths, par contre, qui parlent beaucoup du sourire parce que... Le Coran invite chaque croyant à suivre le modèle spirituel que représente le prophète. Or, le prophète est représenté comme étant quelqu'un d'extrêmement souriant. Donc, de ce point de vue-là, il y a une invitation à sourire, finalement, qui est faite dans les hadiths. Et également, l'idée dans les hadiths que le sourire est à part entière un acte de charité. C'est-à-dire que sourire à son frère, eh bien, c'est l'aider, c'est le soutenir, c'est l'encourager. Et donc, il y a une véritable tradition, si vous voulez, qui invite le croyant musulman à privilégier le sourire.
Oui. Effectivement, vous relevez Marie-Françoise Salez du prophète qui dit « Ne néglige aucune œuvre de bien, pas même le fait de rencontrer ton frère avec un visage radieux ». C'est bien cela ?
Voilà, ça c'est toute la tradition des hadiths, c'est-à-dire, voilà, ce n'est pas directement dans le Coran. Mais les hadiths qui racontent justement la vie, les faits, gestes du prophète, eh bien, font vivre en fait cette indication à sourire.
Et dans le judaïsme, Marie-Françoise Salez, c'est évidemment, j'allais dire, l'humour, hein, l'humour qui peut être tout à fait associé à la relation avec Dieu.
Exactement, l'humour est très important dans la tradition juive. Le sourire intervient comme sourire de l'humour, mais il intervient aussi entre la relation qui existe directement entre les hommes et Dieu, puisque Dieu sourit aux hommes, de même que il est demandé aux hommes de sourire à Dieu. Pour que Dieu sourie, en fait, il a besoin des hommes, enseignent les textes de la Kabbale en particulier. Très explicitement, cela est dit dans un récit du Talmud, c'est le Talmud de Babylone ici, qui raconte l'histoire d'un four, une dispute à propos d'un four dont il s'agit de savoir s'il est pur ou impur. Et donc, des sages se disputent, et donc, il y en a un qui est isolé, en fait, hein, et qui fait appel à Dieu pour que Dieu lui dise s'il a raison ou tort. Et donc, il demande à Dieu, si j'ai raison, fais que cet arbre là-bas se déplace. Et l'arbre se déplace. Et donc, les sages lui disent, mais on n'a pas de leçon à recevoir d'un arbre. Et ils continuent leur discussion, et Rabbi Eliezer demande, si je dis vrai, que l'eau remonte le courant. et le miracle se produit. Et là encore, les sages disent, mais en fait, cela ne prouve rien du tout. Qu'est-ce que tu crois que l'eau va nous apprendre quoi que ce soit? Puis, troisième miracle, les murs de la maison d'études sont, à la demande de Rabbi Eliezer, commencent à s'affaisser. Ce sont les sages contre Rabbi Eliezer qui ont le dernier mot et ils lui disent, si Dieu nous a laissé la Torah, c'est certainement pas pour que un arbre, l'eau ou des murs d'une maison nous dictent ce qu'il faut faire. C'est à nous d'interpréter la Torah. À la fin de ce texte, il est question de Dieu directement, puisque Rabbi Nathan rencontre Élie, Élie étant le messager de Dieu, et il demande à Élie, que dit le saint à propos de cette discussion? Et donc Élie rapporte que Dieu a souri et qu'il a dit « mes enfants m'ont vaincu ».
Oui.
Et donc ça veut dire que le Dieu qui se trouve dans la Bible est un Dieu qui sourit.
On ne peut pas ne pas parler de Bouddha, bien sûr, quand on parle du sourire et des religions et spiritualité. Le sourire de Bouddha, ce sourire qu'il a exprimé au moment de son éveil.
Oui, exactement. Dans le récit qu'en fait en particulier Antoine Marcel, dans un livre qui s'appelle Le sourire du Bouddha, effectivement, l'éveil se caractérise par le sourire. Et je crois que c'est très instructif parce que le sourire du Bouddha n'est pas la traduction d'une émotion. Parce que justement dans le bouddhisme, on enseigne à se détacher des émotions. Donc le sourire du Bouddha, c'est le signe d'une libération. Et c'est le signe qui authentifie finalement l'expérience intérieure qui est celle de l'éveil, en fait. L'expérience de l'éveil, elle est liée à la découverte d'une vérité qui permet de dépasser la souffrance.
Alors, oui. On terminera avec vous, Marie-Françoise Salaise, sur une photo qui représente un homme devant un peloton d'exécution.
Oui.
Il s'agit de Georges Blin. Nous sommes en octobre 44. C'est la simulation, en fait, d'un peloton d'exécution. Je ne sais pas s'il le sait, d'ailleurs, mais il sourit. Il sourit et ça,
exact.
C'est le sourire qui exprime la liberté intérieure.
C'est un sourire qui exprime effectivement la liberté intérieure de cet homme qui est capable de se détacher de la situation dramatique qu'il est en train de vivre et qui affirme l'indépendance de son esprit, en fait. Donc c'est une photo qui est tout à fait étonnante et qui rejoint aussi un certain nombre de textes littéraires hein, qui montrent que dans l'acte de résistance, dans l'acte de révolte, mais révolte comprise non pas comme un appel à la destruction, hein, mais quelque chose qui évoque l'affirmation d'une liberté, et bien dans les textes qui parlent de cela, le sourire est présent.
Oui,
la plupart du temps.
C'est une mise à distance, oui, par rapport à l'événement. Dire voilà, je suis plus fort que l'événement qui est en train de se dérouler. Cela rejoint, et ça sera notre conclusion, Marie-Françoise Salaise, cette idée que, oui, le sourire peut aider aussi le croyant à sortir hein, du piège de l'enfermement dogmatique, du piège de la rigidité psycho-spirituelle, j'allais dire, du piège du fondamentalisme.
C'est très très important, je crois, de le dire, et c'est vrai dans toutes les grandes traditions religieuses dont nous avons parlé, parce que la place du sourire, finalement, elle est relativement mince dans toutes ces grandes traditions, et étonnamment, hein, dans le judaïsme, dans le bouddhisme, en islam et aussi dans le christianisme, on a plutôt l'aspect doloriste ou ascétique, en fait, hein, les courants ascétiques qui ont souvent dominé, en fait, à travers l'histoire. Or, le sourire et de l'humour est très précieux parce qu'il nous donne une respiration, il nous rappelle notre liberté et il appelle notre liberté spirituelle, en fait, voilà, qui ne représente pas un danger, mais une force pour toutes les grandes traditions religieuses.
Je vous remercie, Marie-Françoise Salaise. Je rappelle le titre de votre livre, « Des sourires et des hommes, une approche philosophique », et c'est publié chez Bayard. Merci.
Merci à vous.
Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
Appelez-nous, exprimez-vous.